Vous écoutez On lit pour vous.
Une tente, un toit. Un texte collectif paru le 23 mars 2024, publié dans l'Itinéraire et dans la presse. Avec la multiplication des campements dans plusieurs municipalités du Québec, les Camelots nous disent ce qu'ils pensent de ces installations dans l'espace public. Des pompiers pour venir en aide. Les villes devraient allouer des terrains déterminés où les sans-abri pourraient s'installer. Les refuges sont pleins, donc ces gens-là doivent bien dormir quelque part. La ville a déjà des intervenants qui se promènent dans les campements, alors ils pourraient mettre en place des règles de sécurité à suivre, et si eux ne peuvent pas le faire, ils pourraient demander aux pompiers de le faire. Eux, ils connaissent ça, la prévention des incendies. Yvon Massicotte, Camelot, Métro Université de Montréal. Une tente au lieu d'un logement. Ça ne me dérange pas, les campements. Je trouve même ça beau. Lorsqu'on n'a pas de logement, mieux vaut dormir dans une tente que dans la neige. Moi, je n'ai jamais été itinérant, mais la mairesse Valérie Plante m'a déçu car c'est elle qui a ordonné de démanteler les campements. Avant de le faire, elle aurait dû offrir des logements, car s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont nulle part où aller. Jean-Claude Nau, Camelot, Métro Verdun et IGA Verdun. Ce n'est pas normal dans une ville riche comme Montréal. Je n'ai rien contre les campements. On devrait plutôt trouver des endroits où les installer, sous les ponts par exemple, dans des espaces verts, où il ne fait pas trop chaud l'été. Pourquoi exproprier ceux qui vivent dans des tentes? La solution, c'est de les accompagner, de leur donner une solution de rechange. S'ils restent là, ils se ramassent avec des contraventions qu'ils ne peuvent pas payer. Ils deviennent méchants, même criminels, parce qu'ils veulent survivre, tout simplement. Ce n'est pas normal de se sentir aussi seul dans une ville riche comme Montréal. Jean-Guy Deslauriers, Camelot, première moisson de la promenade Masson. Plus d'hébergement. Les campements qui se mettent en place, c'est juste parce que les gens n'ont pas d'hébergement. L'hiver, c'est pas facile. L'itinéraire a ouvert une halte chaleur justement pour que les itinérants puissent se réchauffer la nuit. Personne n'aimerait se retrouver à leur place. Ce qu'il faudrait, c'est plus de HLM, plus de logements pour aider les pauvres, et non pas seulement construire plus de condos pour les riches. Diane Curado, Camelot, Marché, Métro, rue de l'Église. Trop de monde dans la rue. Il y a trop de monde dans la rue. Il va falloir faire quelque chose pour que Legault comprenne qu'on a besoin de plus de logements sociaux. Moi, je prends en pitié ceux qui sont itinérants. Ce n'est pas évident de dormir dans les refuges. C'est l'enfer comment les gens se chicanent, que ce soit pour des cigarettes ou pour le lit dans lequel ils vont coucher. La solution, pour moi, c'est plus d'appartements supervisés ou de HLM pour ces gens-là. Mélanie Noël, Camelot, Métro Jolicoeur et IGA Verdun. Pas en sécurité. Il faut plus de logements moins chers. Moi, je ne me verrais pas vivre dans un campement. Je pense que tu n'es pas tellement tranquille pour dormir. Il pourrait y avoir un accident. Je ne trouve pas ça sécuritaire ni sécurisant d'habiter dans une tente. En plus, tu n'as pas de place où te laver. Il y a toujours la possibilité que tu ne t'entendes pas avec tes voisins. Sauf que les logements sont trop dispendieux. Stéphane Langteau, Camelot, Métro Sauvé et Métro Square Victoria. Deux par deux. Je pense qu'on devrait laisser les campements au lieu de les défaire. Les sans-abri sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, alors ils s'organisent pour ne pas dormir dehors. Souvent, ils sont deux par tente, alors quand l'un s'en va, l'autre surveille les affaires et puis ça leur permet d'avoir une place pour être seuls. D'un autre côté, on devrait mettre l'accent sur les logements à prix modique. Le logement, c'est pourtant la base pour tout le monde. Alex Péloquin, Camelot, Métro Berry-UQAM. C'était Une tente, un toit. Un texte collectif paru le 23 mars 2024, publié dans l'Itinéraire et dans la presse.
New York dépollue une lessive à la fois. Un texte de Sarah Champagne. paru le 18 mars 2024 dans la presse. À New York, les dosettes de détergent à lessive et pour lave-vaisselle pourraient disparaître. Un projet de loi visant à interdire ces sachets en polymère est à l'étude par des élus, car leur utilisation n'aurait rien d'inoffensif. Selon de nouvelles études scientifiques, la popularité des dosettes auprès des Américains est à l'origine d'une hausse des polluants observés dans le fleuve Hudson et ses affluents. Les capsules de PVA, alcool polyvinylique, aussi appelé PVOH, ont beau se dissoudre dans l'eau, elles laissent des traces, s'entendent pour dire des experts, notamment de l'Arizona, des traces éternelles à l'image du plastique. Le conseiller municipal démocrate James Gennaro raconte avoir sorti ses confrères de la torpeur hivernale au début de février en présentant les grandes lignes de son projet. Il propose d'interdire la vente ou la distribution de dosettes de détergent ou de feuilles de lessive contenant du PVA dans les 5 arrondissements Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. C'est du sérieux. Joint par la presse avant une réunion avec l'exécutif de la grosse pomme, le vieux routier de la politique admet qu'il ne se fera pas d'alliés chez les géants de la lessive, tels Procter & Gamble, qui a commercialisé les fameux Tide Pods 3 en 1. L'homme représente les citoyens du District 24. Il rappelle qu'il a déjà été professeur adjoint de sciences politiques et de politique publique environnementale au Queens College. Il connaît son sujet, assure-t-il. Je ne veux pas interdire juste pour interdire. C'est du sérieux, comme pour les métaux lourds. Les dosettes sont de plus en plus populaires. Des millions de capsules sont utilisées chaque jour par les citoyens. Et quand le PVA se dissout dans l'eau, il laisse des résidus microscopiques qui se mélangent à d'autres contaminants. C'est la quantité le problème majeur, affirme James Gennaro. Selon une récente étude publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health, 650 000 tonnes de PVA sont produites chaque année à l'échelle planétaire, avec une hausse estimée de 4,09% par année de 2018 à 2023. En plus de servir à fabriquer les capsules de détergent, en y ajoutant du polyéthylène glycol ou PEG, un composé de pétrochimie utilisé comme agent moussant, le PVA est utilisé dans les adhésifs, les peintures, les mastics, les revêtements et les textiles. Il a aussi des usages médicaux, notamment pour la fabrication des lentilles de contact et de certaines gouttes pour les yeux. Professeur titulaire à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé est spécialiste de la chimie des sols, de l'eau, de l'environnement. Il a beaucoup étudié les polluants chimiques et les contaminants émergents. Afin d'expliquer de façon simple l'effet du PVA dans l'eau, il trace un parallèle avec le sucre et le sel. On ne verra plus le contenu d'une cuillère de sucre ou de sel une fois qu'il est mélangé dans un verre d'eau. Mais il n'a pas disparu pour autant. C'est exactement la même chose avec le PVA. Il existe une solution pour l'éliminer complètement des eaux usées, enchaîne le professeur. Les municipalités pourraient introduire dans les usines de filtration un processus complexe de dégradation à l'aide d'un catalyseur à base de cuivre et de manganèse. Mais ce serait extrêmement coûteux, ajoute-t-il. La fin de la poudre. Par ailleurs, le professeur fait remarquer qu'il est de plus en plus difficile de se procurer une bonne vieille boîte de détergent en carton avec du savon en poudre. La solution va peut-être venir des consommateurs, avance-t-il. D'autant plus qu'il est reconnu que les capsules, reviennent plus chers que la poudre. On n'a pas besoin de tout ce savon pour un cycle de lavage. À la ville de Montréal, un projet d'ozonation visant à désinfecter les eaux usées avant de les rejeter dans le fleuve accuse des années de retard. Et il ne dissoudra pas le PVA ou les microbilles de plastique. À la direction des relations avec les médias de l'exécutif de la mairesse Valérie Plante, on a décliné une demande d'entrevue avec un élu responsable. Cependant, on indique que Montréal n'envisage pas actuellement d'interdire les capsules de détergent à lessive et pour lave-vaisselle. Nos experts restent à l'affût et suivent de près les recherches sur la pollution de l'eau, et ce, en collaboration notamment avec la chaire en eau potable de Polytechnique Montréal. Il n'y a toutefois pas de projet directement en lien avec les microplastiques, précise Kim Nantais, de la Direction des relations avec les médias. Empoisonnement. Au-delà de la question environnementale, les dosettes de détergent liquide ont fait l'objet d'un avertissement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en raison de la hausse des empoisonnements d'enfants. Une multiplication par 10 en 5 ans était recensée en 2015 en Europe. Elles ressemblent à des bonbons avec leurs couleurs vives et leurs odeurs, a prévenu l'organisation. C'était « New York dépollue une lessive à la fois », un texte de Sarah Champagne, paru le 18 mars 2024 dans la presse.
Les portions dans les sacs de croustilles et les boîtes de biscuits ne rapetissent pas toujours. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir. Le contenu des sacs de croustilles et des boîtes de biscuits n'a pas toujours diminué. Il est même arrivé dans le passé que ce soit l'inverse qui se produise. Le sujet a même fait l'objet d'études très sérieuses dont l'intérêt principal n'était pas de documenter l'impact de la hausse du coût des intrants sur les formats des produits offerts, mais plutôt l'impact de l'augmentation de la taille des portions sur le poids des consommateurs. On y rappelle, par exemple, que les premières bouteilles de Coca-Cola en 1916 ne venaient que dans un seul format et n'avaient qu'une capacité de 177 millilitres, alors qu'aujourd'hui, on ne trouve rien de plus petit que des mini-canettes de 222 millilitres, aux côtés desquelles apparaissent toutes sortes d'autres formats plus gros allant jusqu'à 2 litres. Quant aux sacs individuels de croustilles, le plus petit, 38 grammes, et le plus gros, 65 grammes, de la marque Yum Yum, qu'avaient trouvé en 2019 les auteurs d'une étude de l'Institut national de santé publique du Québec, étaient deux ou trois fois plus volumineux que leur première version en 1966, 22 grammes. Commencé dans les années 1970, mais particulièrement marqué entre la fin des années 1980 et celle des années 1990, cet accroissement de la taille des portions a été à l'avenant pour les barres de chocolat, les sacs de bonbons, les bâtonnets glacés ou les repas dans les chaînes de restauration rapide. Dans ce dernier cas, le format original des frites de McDonald's en 1955, 68 grammes, par exemple, a depuis longtemps été dépassé, non seulement par la grosse, 178 grammes, et la moyenne, 110 grammes, portion, mais même par la petite, 75 grammes. Ces histoires sont de bons exemples de deux phénomènes qui ont aussi été observés dans d'autres industries, explique Marie Scotte-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. D'une part, elles découlent de l'avancement des méthodes de production qui ont permis de fabriquer et de vendre ces produits alimentaires à moindre coût. D'autre part, elles traduisent une augmentation du pouvoir d'achat des ménages, pour qui le prix de ces produits en proportion de leur budget est devenu relativement plus abordable, ce qui leur a permis d'en acheter plus souvent et en plus grande quantité. C'est le même phénomène qui s'est produit avec les télévisions à écran plat. donne-t-elle comme exemple. Là aussi, les premiers modèles étaient chers, pas si évolués et réservés aux consommateurs les plus aisés. Mais avec l'avancement technologique et la production de masse, de meilleurs modèles beaucoup moins chers se sont graduellement répandus. Par ailleurs, lorsque l'augmentation des coûts de production de biens ou de services se produit en période de relative prospérité, les entreprises chercheront moins à ruser avec les consommateurs et la feront passer plus volontiers directement sous forme d'une hausse équivalente des prix, explique Maryse Côté-Hamel. C'est lorsque l'augmentation des coûts de production est exceptionnellement forte ou qu'elle se produit alors que les ménages sont plus serrés dans leur budget, comme lors de crises économiques, que les entreprises auront tendance à avoir recours à des stratégies de réduflation ou de décaliflation. Le monde du transport aérien a traversé des périodes similaires, note Marc-Antoine Vachon, professeur et titulaire de la chaire de tourisme Transat de l'Université du Québec à Montréal. Là encore, les voyages en avion ont longtemps été réservés à une certaine élite économique. L'invention de plus gros appareils, l'apparition de transporteurs au rabais et les incitatifs offerts par des pays voulant attirer les touristes ont entraîné une démocratisation du transport aérien. Nous assistons peut-être aujourd'hui à une forme de retour du balancier, avec la consolidation des compagnies aériennes, l'atteinte d'une certaine maturité de certaines destinations et une meilleure prise en compte des coûts environnementaux du transport aérien. C'était les portions dont les sacs de croustilles et les boîtes de biscuits ne rapetissent pas toujours. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir.
Vous voulez éteindre le moteur, s'il vous plaît? Un texte de Louis-Joseph Tassé, paru le 22 avril 2024 dans La Presse. Je destine ce texte à tous ceux et celles qui conduisent une voiture à moteur thermique et ne se préoccupent pas de justice climatique. On associe volontiers l'automobile à un sentiment d'indépendance, de liberté, que la vitesse décuple et transforme en euphorie. Une fois stationné, son habitacle devient un paradis multicolore qui illumine le téléphone cellulaire. Le véhicule se transforme en un refuge qui isole de tout, nous fait tout oublier. Nous-mêmes, le souci d'une plus grande justice climatique, et ce, oui, alors que le moteur reste en marche. Un soir, à l'été 2022. Nous sommes au mois d'août. Il fait une chaleur pas normale. Un voile gris pèse sur Montréal. Mais on ne voit aucun nuage. Je marche avec mon fils dans un stationnement. Il y a ce camion pick-up immobilisé, le moteur en marche. Nous y rentrons au supermarché. Quand nous sortons, 20 minutes plus tard, le moteur du pick-up tourne toujours. On voit une vapeur noire rejetée par le pot d'échappement. Mon fils Victor fait remarquer que le camion n'a pas bougé. Il suffit de quelques instants pour que l'homme au volant baisse les fenêtres. Il regarde sa blonde en riant très fort. C'est comme si je venais de lui raconter une bonne blague. On se tient à quelques mètres. Il rince son moteur, appuie encore sur l'accélérateur. Le pot d'échappement rugit en même temps qu'il crie « Go and screw with the tree, you idiot! » « You motherfucker ecologist! » Il démarre en trombe, fait crisser ses pneus. Il enveloppe son véhicule d'une fumée opaque qui pique les yeux et chauffe les narines. Quelques secondes plus tôt, je lui avais demandé d'éteindre son moteur s'il ne roulait pas. Un comportement fréquent. De supermarché en quincaillerie, en passant par la rue devant les commerces, on fait chaque fois la même expérience en sortant faire ses courses. On croise une conductrice ou un conducteur, dont l'auto est stationnée pendant que le moteur tourne. À mon corps défendant, je demande « Vous voulez éteindre le moteur, s'il vous plaît, si vous ne roulez pas? » Imaginez la réponse sous le couvert de l'ironie. « Ça te dérange? Pourquoi tu fais pas le tour, là? » Ou avec une justification qu'on croit inoffensive. « Yo, je laisse marcher le moteur pour avoir l'air climatisé. Il fait bien trop chaud dehors. » On pourra dire à tous ces gens qu'un règlement existe à Montréal interdisant de laisser un moteur en marche si le véhicule est immobilisé plus de 3 minutes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend pour faire respecter ce règlement? À Outremont, l'on vient d'adopter un règlement encore plus sévère interdisant de laisser tourner le moteur d'un véhicule immobilisé pendant plus de 10 secondes. Pour illustrer les avantages d'une telle initiative, une étude récente montre que sur 4000 km, pendant 20 jours, le fait de couper le moteur permet d'économiser en moyenne 6 % de carburant. Notons aussi que chaque litre d'essence consommé produit plus de 2 kg de CO2, le gaz qui contribue le plus à l'effet de serre. On parlait il y a 30 ans de gaz à effet de serre, de pluies acides. Depuis, les événements tragiques liés au climat se sont multipliés et la preuve scientifique nous a forcés à changer de vocabulaire. Réchauffement climatique, dérèglement et crise climatique. Les noms, comme le phénomène, forme un dramatique crescendo. N'en déplaise aux climato-sceptiques, aux négationnistes, ces événements sont devenus la norme. Mais le fait de changer les noms désignant le phénomène a-t-il entraîné un changement dans nos comportements? À l'évidence, l'homme isolé dans son véhicule à moteur thermique n'entend même pas la question. C'était « Vous voulez éteindre le moteur, s'il vous plaît? » Un texte de Louis-Joseph Tassé, paru le 22 avril 2024 dans La Presse.
Les hôtels du Québec forcés de revoir toute leur offre de services. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 20 avril 2024 dans Le Devoir. L'industrie de l'hébergement n'a pas été épargnée par la hausse des prix. Les dommages laissés par la pandémie de COVID-19, la hausse des taux d'intérêt, la rareté de main-d'œuvre, le prix de la nourriture, les primes d'assurance. La liste des facteurs qui viennent alourdir les coûts de fonctionnement ne cesse de s'allonger alors qu'on ne peut avoir recours aussi facilement aux mêmes solutions que dans les épiceries. Même si l'inflation affecte tout le monde, l'hôtellerie, c'est différent de la vente de chocolat et des chips, dit la PDG de l'Association Hôtellerie du Québec, AHQ, Véronique Tremblay. On ne peut pas augmenter les prix ou réduire les services mécaniquement. On vend une expérience. Les gens sont en vacances. Il est essentiel de penser à ce que notre clientèle recherche avant tout. On ne peut pas se permettre de la voir repartir déçue. Comme le choc des prix est trop grand pour se contenter de petites solutions à la marge, les hôtels se voient rapidement obligés de réexaminer l'ensemble de leur modèle d'affaires, poste de dépense par poste de dépense, afin de bien comprendre la nature et les attentes de la clientèle et de réduire, si nécessaire, les services, là où ça fait moins mal. Longtemps au premier rang, la rareté de main-d'œuvre a désormais été remplacée par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement économique en tête des principales difficultés auxquelles les hôteliers disent faire face, selon un sondage commandé par l'AHQ, dont les résultats n'ont pas encore été dévoilés. Au premier rang des solutions évoquées, on trouve le recours à la tarification dynamique, qui consiste à augmenter les prix en période de pointe et à les baisser en basse saison, par exemple, à des offres spéciales pour des clientèles ciblées, ainsi que l'adaptation des ressources et des effectifs selon le taux d'occupation. Tout le monde aura remarqué qu'on ne fait généralement plus automatiquement le ménage des chambres chaque jour. De plus en plus d'établissements réduisent également les heures d'ouverture de leurs restaurants quand ils ne les ferment pas carrément certains jours. Cette diminution de la quantité de services offerts sans que le prix des chambres diminue, réduflation, s'accompagne parfois d'une certaine perte de qualité, décaliflation. Souvent trop populaires pour être simplement abolis, les déjeuners compris ne viendront plus, par exemple, avec un service aux tables, mais sous forme de buffet. Il arrive même qu'on décide de garder des chambres inoccupées certains soirs parce que les quelques clients de plus généreraient trop de dépenses de fonctionnement supplémentaires, explique Véronique Tremblay. Les chiens et les télétravailleurs. L'important est de ne pas essayer de faire de cacheterie, poursuit-elle. Les clients ne sont pas fous. Ils savent quels sont les services qu'ils reçoivent et ceux qu'ils ne reçoivent plus. C'est important d'être franc, d'être transparent et d'être encore plus à l'écoute des clients afin de continuer de leur donner ce qu'ils veulent le plus. Il se peut qu'on en conclue qu'il ne sert à rien d'essayer d'attirer un certain type de clientèle. Mais il arrive aussi qu'on choisisse d'augmenter certaines dépenses relativement peu coûteuses parce qu'elles seront susceptibles de plaire aux clients actuels ou nouveaux. Cela peut prendre, par exemple, la forme de l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques, de l'aménagement d'une salle de jeu pour les familles avec enfants ou d'une offre de services adaptée aux télétravailleurs ou aux propriétaires d'animaux domestiques. De plus en plus d'hôteliers cherchent également à s'associer à des commerçants, à des producteurs et à d'autres partenaires locaux pour élargir la palette d'expériences que leurs clients pourront vivre durant leur séjour. Cela se traduit parfois par une offre de forfaits qui sont un peu plus chers, mais avec lesquels les clients ont le sentiment d'en avoir encore plus pour leur argent. Parce que, encore une fois, dans notre domaine, c'est l'expérience qu'on en tire qui compte, affirme Véronique Tremblay. C'était Les Hôtels du Québec forcés de revoir toute leur offre de services, un texte d'Éric Desrosiers paru le 20 avril 2024 dans La Presse.